Bonsoir, donc, et merci de nous avoir invités à discuter. Alors, bon, pour me présenter un petit peu, enfin, c'est pas moi que je vais présenter, mais plutôt d'où je parle, l'endroit dans lequel j'interviens, donc qui est l'Observatoire des armements, un centre d'expertise qu'on a créé il y a un peu plus de 20 ans maintenant, en 1984. On était un petit noyau de personnes qui avaient participé aux différents mouvements, effectivement, contre les euromissiles, enfin contre l'implantation de missiles nucléaires en Europe, notamment, pour ceux qui s'en souviennent, donc les Pershing, les SS-20, puisqu'il y en avait de chaque côté du rideau à l'époque, puisqu'il y avait le mur de Berlin qui séparait l'Europe, du moins en deux. Et en France, on s'est rendu compte qu'effectivement, le mouvement de paix qui avait pu se développer dans les autres pays européens de manière assez importante, notamment en Belgique, en Allemagne, enfin dans les différents pays européens, avait eu beaucoup de mal à se développer en France. Et notre constat, c'est qu'effectivement, on travaillait essentiellement, enfin en France, on était surtout sur de l'idéologie dans ces mouvements-là, et qu'on travaillait assez peu sur les dossiers concrets, pourquoi on avait de l'armement nucléaire, à quoi il servait, pourquoi on vendait des armes, etc. Et donc, de là est née l'idée de ce centre d'expertise qu'on a créé sur Lyon pour essayer de faire ce travail-là, de fournir un petit peu des dossiers, des argumentaires au niveau de la société civile, au niveau des médias aussi. Donc avec un travail qui se fait essentiellement dans deux directions au niveau de ce qu'on peut faire nous en France. D'abord, la première direction, effectivement, c'est au niveau de l'armement nucléaire. Bien évidemment, dans l'objectif d'arriver un jour vers l'arrêt des armes nucléaires, vers la suppression de cet armement. Bien sûr, on n'en est pas encore là, malgré ce qu'on a pu voir avec la chanson, la question, elle se passe pas du tout de cette manière-là, puisque même au contraire, à la limite, les gens s'en souviennent pas forcément, mais si on élit actuellement en France le président au suffrage universel, ça n'a pas toujours été le cas, et ça s'est fait en 64, justement, parce qu'effectivement, la France commençait à accéder à l'armement nucléaire et De Gaulle voulait qu'effectivement le président ait suffisamment de légitimité pour pouvoir appuyer sur le bouton le jour où il y aurait besoin de... où il estimerait qu'il faut appuyer dessus. Donc, alors qu'avant, l'élection du président ne se faisait pas au suffrage universel comme maintenant. Donc... Sur l'armement nucléaire, j'interviendrai pas trop ce soir parce qu'effectivement, la semaine prochaine, vous aurez aussi, il y aura un autre débat autour de ces questions-là et autour de la question des conséquences des essais nucléaires, sur lequel effectivement notre observatoire a beaucoup travaillé depuis une vingtaine d'années. Mais bon, donc effectivement, on pourra peut-être y revenir dans le débat si vous voulez, mais c'est vrai que dans la mesure où vous avez ce débat avec l'Association des vétérans des essais nucléaires la semaine prochaine, je pense qu'on en parlera moins. Le deuxième secteur sur lequel on intervient beaucoup aussi, où on essaye en tout cas de susciter un débat en France, c'est la question de l'industrie d'armement et des transferts d'armement, puisque bon, la France est un exportateur, un fabricant d'armes, bon, ça, je suppose que bon, tout le monde le sait, effectivement, et aussi un exportateur très important. Donc on essaye d'intervenir sur ce domaine-là, à la fois pour qu'il y ait d'abord plus de transparence, parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'y passe dans ce domaine-là, et aussi, surtout, pour qu'il y ait un contrôle plus grand des citoyens sur les exportations d'armes, qu'on ait notre mot à dire dans ce domaine-là, puisqu'effectivement, les ventes d'armes sont vendues en notre nom de chacun. C'est la France qui vend des armes, c'est pas seulement Dassault ou Thales ou d'autres organismes qu'ils les vendent, mais c'est bien chacun de nous qui les vendons. C'est au nom du gouvernement, au nom de chacun de nous. Donc ça, c'est les deux secteurs dans lesquels on travaille. Au niveau des transferts d'armes, on travaille pas, bien évidemment, tout seul. Hein. On travaille avec d'autres organismes qui interviennent sur ces questions. Ça va d'handicap au Secours catholique, en passant par Greenpeace, en passant par Handicap International, Amnesty International, le CCFD pour ceux qui peuvent connaître, la Ligue des droits de l'homme, enfin un certain nombre d'organisations avec qui on essaye de monter des campagnes, de faire un travail d'information, de lobbying auprès des députés, enfin bon, travail un petit peu classique que peuvent faire des associations, mais en s'appuyant toujours sur des faits précis, sur des argumentaires, de façon à essayer de faire bouger un peu les choses, de faire avancer les choses, et pas simplement, effectivement, bon, d'être contre la guerre, ou d'être, parce que tout le monde est contre la guerre, tout le monde est pour la paix, je dirais, mais après, comment on fait pour aller vers un monde de paix et ne pas être justement dans la préparation de la guerre comme on peut l'être tout particulièrement en France. Alors, on a amené un petit peu, quelques ouvrages, quelques publications qu'on peut faire, donc pour ceux qui seront intéressés, et puis on pourra revenir peut-être après dans le débat sur nos activités. Donc, ce que je vais essayer de faire un petit peu rapidement pour essayer de lancer le débat, c'est de vous donner un petit peu quelques éléments sur les dernières mutations un petit peu ou sur le paysage militaire français en quelque sorte, hein, sur les dernières mutations au niveau de l'armée. Et puis après aussi quelques données au niveau plus des dépenses militaires, au niveau à la fois de la France et au niveau mondial. Et je terminerai après sur le commerce des armes plus particulièrement, un petit peu au niveau mondial, mais surtout au niveau de la France, puisque c'est là où on peut essayer d'agir chacun de nous pour faire changer les choses. Et c'est là déjà qu'il faut un peu essayer de s'informer sur ces questions-là. Alors bon, je vais essayer c'est plus un partage d'expérience hein, qu'une conférence au sens plus académique du terme que je vais essayer de faire. Faut pas hésiter non plus s'il y a des expressions, des sigles que j'utilise que vous comprenez pas ou des choses d'intervenir, de m'arrêter pour que je puisse mieux expliquer ou donner plus de précision. Parce que bon, effectivement, c'est pas des sujets qu'on a l'habitude d'entendre parler, hein, parce que bon, c'est les médias en parlent très peu. Même durant les campagnes, des élections, soit présidentielles, soit législatives, qui devraient être un des lieux, effectivement, où on débat de pourquoi on est une armée, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'on veut collectivement, qu'est-ce qu'on décide collectivement par rapport à ces questions-là, ce sont des débats qui sont totalement occultés. Dans la dernière campagne présidentielle, bon, il y a eu une petite polémique sur le nombre de sous-marins par chacun des candidats. Mais pourquoi on avait une force nucléaire et à quoi elle servait, ça n'a pas du tout été débattu. Alors qu'après, la personne qui se retrouve effectivement présidente de la République a ce pouvoir d'appuyer sur le bouton, de donner l'ordre. Donc on dit appuyer sur le bouton, enfin c'est une manière symbolique, mais de donner l'ordre effectivement d'utiliser la force nucléaire. Et la force nucléaire, par exemple, française, a été calibré au niveau de ces ogives pour tuer l'équivalent des Français dans une autre région, dans un autre pays, dans une autre zone. Et au niveau, il compte même en mégamorts, puisque bon, on est 60 millions de Français, donc elle a été calibrée pour tuer 60 millions de personnes dans un pays qui voudrait occuper la France comme si cette question se posait comme ça actuellement. Et cette décision-là, le président la prendra en dernier ressort seul, surtout que en plus, elle a été telle qu'est conçue, effectivement, la conception de la doctrine nucléaire, c'est de riposter, c'est pas de l'utiliser en premier. Et donc ça voudrait dire que, bon, une fois que la France est détruite, eh ben, on se venge. Même si on n'existe plus, on se venge sur un autre, sur ceux qui auraient cherché à détruire la France. Ce qui peut peut-être s'envisager, mais qui nécessiterait au minimum qu'on en débatte collectivement et que ça soit l'ensemble, effectivement, de la nation qui en débatte de cette question-là. Alors que ça n'a jamais été décidé collectivement, c'est quelque chose qui a été imposé, effectivement, à la France de manière au départ clandestine, secrète. Comme on fait d'autres pays, comme essayent de faire d'autres pays actuellement pour se procurer la bombe, entre autres l'Iran dont on parle souvent, la France, au démarrage, n'a pas fait différemment pour se procurer, pour mettre en place la force de frappe, même si maintenant elle est admise par tout le monde. Donc, pour revenir un peu plus sur où on en est effectivement des questions de défense ou de la place de l'armée effectivement en France, parce que c'est un chantier que Sarkozy effectivement a commencé à réformer de manière importante, même si pour le coup on n'en parle pas beaucoup, c'est pas un chantier sur lequel, une réforme sur lequel il fait beaucoup d'effets de manche comme sur d'autres sujets. Mais par contre, il y a des modifications importantes qui commencent à être mises en place. C'est presque un des premiers chantiers qu'il a mis en œuvre depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Ce chantier-là n'est pas dans une rupture fondamentale avec ce qui se passait avant, puisque bon, il y avait déjà eu une réforme très importante qui avait été faite par Jacques Chirac, aussi pareil, à partir du moment où il est arrivé au pouvoir. C'est aussi une des réformes qu'il a amenées, une des rares réformes peut-être qu'il a amenées jusqu'au bout, par rapport à ce qu'il avait annoncé, effectivement, et qu'il est allé jusqu'au bout de cette réforme. Mais de manière, je dirais, un petit peu, pas dictatoriale, parce que ça, le mot serait trop fort, mais de manière, effectivement, autoritaire, mise en place par un cercle fermé, restreint de personnes, et peu débattu, bien sûr pas au niveau de la nation, mais même pas au niveau du Parlement, très très peu, alors que une des fonctions du Parlement, c'est aussi de contrôler l'activité du gouvernement. Et c'est un domaine sur lequel il le fait très peu. C'est le fait du prince, la question militaire encore. Donc, ce qu'avait fait Jacques Chirac quand il arrivait au pouvoir, on se souvient qu'il avait repris effectivement une série d'essais nucléaires. Ça, c'est quelque chose parce que ça fait beaucoup de bruit au niveau international. Donc, on s'en souvient de cette série d'essais qu'il avait reprise. Mais ce qu'on connaît moins, c'est toute la réforme qu'il a mise en place derrière. Donc il y a eu bien sûr la suppression de la conscription, qui est un élément important dans un changement au niveau de l'armée, de la place de l'armée en France. Il a transformé l'armée, qui était une armée plus de présence sur le territoire, pour défendre effectivement en cas d'invasion à la frontière, en une armée d'intervention à l'extérieur. Donc pour pouvoir projeter des militaires à l'extérieur et intervenir aux différents coins de la Terre, du globe, et ce qui se fait quand même assez régulièrement, puisqu'on a en permanence à peu près 30 000 militaires français qui interviennent dans différents coins du globe, sans qu'on sache trop non plus ce qu'ils y font, au nom de quoi ils interviennent, pour défendre quels intérêts, des choses qui sont peu débattues. Même si de temps en temps, bon, on en parle quand il y a des événements un petit peu particuliers, comme sur le Tchad récemment. Mais sinon, en Centrafrique, par exemple, où on continue de maintenir en place un dictateur dans ce pays-là, c'est des choses qui se font grâce à la France, grâce à chacun de nous, sans qu'on puisse en discuter, sans qu'on soit concerné. Donc effectivement, Jacques Chirac avait mis en place cette transformation de l'armée en la professionnalisant. Il avait aussi réintégré, je dirais, l'OTAN aussi, donc de manière plus forte, effectivement, puisque la France était sortie du commandement militaire de l'OTAN et avait maintenu une certaine autonomie de décision par rapport aux Américains, puisque bon, l'OTAN, donc c'est le bras armé, je dirais, des Américains, qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale, qui théoriquement, effectivement, était pour lutter contre le communisme au départ, pour empêcher une invasion des Russes ou une expansion du communisme sur l'ensemble de la planète, et qui maintenant, même si le monde communiste s'est écroulé, donc le pacte de Varsovie s'est écroulé, s'est maintenu avec donc comme objectif, effectivement, la guerre du terrorisme, contre le terrorisme, mais sans non plus, là encore, que soit bien explicité qu'est-ce qu'était le terrorisme, qui étaient les terroristes, et effectivement, avec toutes les questions que ça peut poser derrière là-dessus. Et ce qu'on se rend compte, c'est surtout pour maintenir, effectivement, une certaine forme d'organisation du monde, une certaine forme d'hégémonie américaine, de domination américaine, que sert effectivement l'OTAN. Et jusqu'à présent, la France avait gardé un peu de distance par rapport à ça. C'est ce qui lui avait permis à Jacques Chirac de ne pas aller, entre autres, en 2003 de ne pas retourner en Irak, puisqu'on y avait été en 91, la première fois. La France y avait été, mais la seconde fois, quand il y a eu une nouvelle guerre contre l'Irak, la France s'était opposée à cette guerre-là et elle n'avait pas envoyé de soldats. Alors, pas toujours pour des raisons de morale ou d'éthique ou de paix ou de choses comme ça. Il y avait aussi des raisons bassement de concurrence avec les Américains, parce qu'effectivement, quand la France y est allée en 91, elle espérait bien, au lendemain de la guerre, récupérer des parts de marché sur cette région, ne serait-ce que dans la reconstruction. Et c'est les Américains qui sont gardés toutes les parts du gâteau. Et donc, effectivement, la deuxième fois, Jacques Chirac, sous une thématique, sous un discours de guerre, voulait pas non plus retourner là-bas, dans la mesure où il n'y avait pas d'intérêt, de retour sur investissement, je dirais, dans cette implication-là. Donc, il y a toujours... c'est vrai qu'il y a, le discours médiatique tel qu'il est présenté, tel qu'on peut l'entendre au niveau des médias, enfin de la télévision principalement. Et puis après, il y a toujours un autre versant, souvent, une autre face, toujours dans ces domaines-là, qui est important d'avoir les deux éléments à la fois, quoi. Aussi quand on essaye de réfléchir sur ces questions-là. Donc, un peu sur les grands, ce qu'avait mis en place Chirac et ce qu'essaye de continuer Nicolas Sarkozy avec une dimension supplémentaire, c'est effectivement une intégration dans l'OTAN plus importante. Donc, effectivement, d'être avec le risque de devenir entre guillemets, des mercenaires des Américains. Au niveau des différentes interventions que l'on peut faire. Donc ça, c'est un risque assez important que la France ne perde une partie de son autonomie stratégique, de son pouvoir de décision, effectivement, et ce risque de se retrouver entraînée dans des conflits qu'elle n'aura pas décidé, sur lesquels elle n'aura pas décidé d'intervenir. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles... là aussi, qui mériterait un large débat au niveau de la société, puisque, plutôt que ça soit fait par un petit noyau de personnes. Donc, bien sûr, au niveau de la méthode, théoriquement, Nicolas Sarkozy a mis en place une commission qui est chargée d'élaborer donc un nouveau livre blanc, qui est une espèce de doctrine de l'armée, mais c'est une commission, je dirais, qui est un petit peu fantôme, ou qui est un petit peu très verrouillée, en tout cas, au niveau de la manière dont elle a été mise en place, du mandat qui lui a été donné, et des gens qui en font partie, même s'ils utilisent, effectivement, ils ont invité tous les gens par Internet à envoyer des réactions, à participer, même s'ils ont auditionné tout un tas de personnes, d'organismes, les syndicats, y compris les organisations militantes, je dirais, qui se battent contre, sur ces questions-là, style Amnesty, style, effectivement, notre organisme. Mais pour autant, cette commission chargée d'élaborer la nouvelle doctrine est composée essentiellement de militaires, majoritairement de militaires, puisque, effectivement, qui encadrent les quelques civils qui participent à ces débats-là. Et de toute façon, le plan de route qui leur a été donné par Nicolas Sarkozy, même s'il leur a demandé qu'ils mènent un débat large, sans tabou, etc., le plan de route est très cadré, puisque, il n'est pas question de remettre en cause la force nucléaire. Ça fait partie des choses sur lesquelles, effectivement, on leur demande de ne pas toucher. Le budget militaire aussi, et a été fixé d'emblée, c'est 2% du PIB, et donc faut qu'il cadre les choses là-dedans, mais de discussion sur, effectivement, diminuer les dépenses militaires, ça, c'est pas envisagé. Et la question, effectivement, aussi de réintégration dans l'OTAN a été fixée d'emblée par Sarkozy. Donc là-dessus, il n'y a pas question de débattre, de savoir ou non si on réintègre ou pas l'OTAN. Cette commission va rendre un livre blanc mi-avril, qui sera théoriquement débattu au Parlement, qui sera présenté au Parlement, c'est-à-dire qu'effectivement les parlementaires ne peuvent pas intervenir dessus, mais il sera juste débattu. Et puis après cet exercice de livre blanc, le gouvernement va élaborer ce qu'ils appellent une loi de programmation militaire, puisque bon, ils font ça régulièrement, donc des lois de programmation qui sont pas simplement sur une année, sur un budget annuel comme pour les autres secteurs, mais qui portent sur 5 ans, et donc qui permettent de planifier effectivement les commandes de matériel pour l'armée sur une période beaucoup plus longue. Donc, et ça, c'est un exercice donc qui va être fait pour les années 2009 à 2013. Donc c'est dans ce cadre-là. Donc on entend quelquefois des débats, on a quelques débats sur savoir s'il faut un deuxième porte-avions ou pas, ou des choses comme ça. On a des qui effleurent un petit peu dans les médias, mais c'est tout. On n'a pas vraiment, il n'y a pas vraiment de questions qui sont posées là-dessus, sur l'utilité, sur les raisons, sur les missions, sur ce genre de choses. Donc bon, je pense que sur ces domaines, on pourra y revenir. Mais en conclusion, sur l'évolution de la politique militaire de la France, ce que je voudrais dire, c'est quand même qu'effectivement, l'image qu'on a du rôle de l'armée et qui nous est donnée, c'est surtout une armée qui est là pour théoriquement nous défendre, pour défendre effectivement la France. C'est comme ça qu'elle est présentée. Alors qu'en fait, quand on essaie de réfléchir un petit peu à ces questions, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, elle peut avoir ce rôle-là à l'occasion, mais elle a le rôle majeur qu'elle a, c'est surtout de maintenir le rang de la France. C'est surtout d'exercer la puissance. Elle a un rôle de puissance bien plus que de défense, et de permettre effectivement à la France, qui est une puissance moyenne, de pouvoir exercer sur la scène internationale un rôle beaucoup plus important, qui permet effectivement par rapport à d'autres pays, notamment les pays qu'on dit en voie de développement, par rapport aux pays producteurs de matières premières, d'exercer une forme de pression effectivement sur ces pays-là, de façon à ce que nous on puisse accéder à ces matières premières, par exemple, à des prix, défiant toute concurrence, pour prendre des expressions commerciales, et donc de pas payer à leur juste prix effectivement un certain nombre de choses qui font que qu'il y a des pays qui sont dits riches et des pays pauvres qui n'arrivent pas à se développer. Parce que un certain nombre de puissances exercent des pressions sur ces pays-là, et ces pressions-là, elles peuvent les exercer parce qu'elles ont une armée forte et importante. La France a à peu près la 4e armée du monde, donc ce qui est quand même assez important si on ramène ça, par exemple, au nombre de personnes qu'il y a en France. La première armée étant bien sûr les États-Unis, ça c'est quelque chose d'évident pour tout le monde, suivi par la Russie, et puis après le Royaume-Uni et la France, qui ont des forces armées à peu près équivalentes. Et quand on regarde, c'est effectivement les pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale qui continuent d'exercer à travers sur le monde d'occuper une place particulière grâce effectivement à leur armement nucléaire, puisque c'est les pays qui ont le droit d'avoir qui se sont octroyé le droit d'avoir l'armement nucléaire en interdisant aux autres de l'avoir, et ce sont aussi, et j'y reviendrai après, les pays qui sont les principaux exportateurs d'armes, puisque les 5 pays du Conseil de sécurité avec droit de veto sur les décisions, les pays qui ont un rôle un peu plus particulier au sein des Nations Unies, qui avaient été créés justement pour éviter le retour à la guerre, sont les pays qui utilisent le plus l'arme militaire pour maintenir leur place dans le monde, à travers le nucléaire et à travers les exportations d'armes et l'industrie d'armement. Ce qui me permet un peu de faire la transition avec effectivement les dépenses militaires, puisque autant il y a eu toute une période, bon, effectivement, suivant, sans remonter très loin dans les périodes, mais à la fin de la guerre froide, il y a eu une baisse des dépenses militaires relativement importante, ce qu'on appelait les dividendes de la paix, puisque une forme de guerre se finissait, une forme de guerre qui avait la guerre froide, qui avait été plus sous un angle de guerre économique et de course aux armements qui ont été imposés par les États-Unis vis-à-vis du bloc soviétique, qui ont fait que le bloc soviétique, à un moment donné, s'est effondré parce qu'il n'arrivait plus à suivre dans cette course aux armements, et donc et que toute la ponction qui prenait, je dirais, de son économie, qui consacrait à l'armement, ne pouvait pas être consacrée à la satisfaction des besoins, je dirais, vitaux des populations, ont conduit à l'effondrement du bloc soviétique. Et donc, à la fin de la guerre froide, il y a eu effectivement une baisse importante des dépenses militaires, mais elle a été de très courte durée, puisque, elle a duré jusqu'en 1998, elle a duré à peine une dizaine d'années. Et depuis 1998, les dépenses militaires ont connu de nouveau une courbe croissante, importante, puisqu'effectivement, sur les 10 dernières années, elles ont augmenté à peu près de 34-35% les dépenses militaires. Et on atteint de nouveau, on est revenu au niveau le plus haut de ce qu'on avait de dépenses militaires pendant la période de la guerre froide. Donc on est revenu à ce niveau. Avec une différence quand même importante, c'est que c'est des dépenses militaires sont relativement concentrées entre très peu d'États, puisque les États-Unis à eux seuls assurent à peu près 50% des dépenses militaires dans le monde. 46% exactement, mais enfin bon, ça change pas grand-chose au niveau du chiffre. Donc ce qui montre effectivement une forte concentration des dépenses militaires. Donc au niveau de la France, pour la France, effectivement, c'est 5% des dépenses militaires mondiales, et l'ensemble de l'Union européenne fait à peu près 21% des dépenses militaires mondiales, pour donner quelques chiffres. Bien sûr, les dépenses militaires, c'est pas, quand on parle de dépenses militaires, c'est pas que des dépenses en matériel militaire, ça comprend à la fois les dépenses de fonctionnement, de paiement des salaires, d'infrastructures, etc. Et puis aussi donc des dépenses d'armement. Et donc cette hausse des dépenses militaires, bon, outre cette forte concentration des États-Unis, touche aussi beaucoup la zone Asie actuellement. Donc zone aussi où se développent de fortes tensions, bien sûr entre Japon, Chine, Inde, Pakistan, des zones effectivement où il y a une montée des tensions, à la fois une montée des tensions, une montée en puissance militaire, c'est-à-dire en acquisition d'armement, et donc qui potentiellement peuvent être les prochaines zones où se dérouleront des affrontements importants. Donc sur lequel la réponse qu'on apporte effectivement de manière globale est un surarmement aussi de chacun des différents côtés, mais sur lequel il y aurait peut-être d'autres formes de réponses à réfléchir si on ne veut pas justement retourner vers une forme de guerre qui pourrait être très meurtrière, très dangereuse pour l'humanité, puisque bon, ne serait-ce qu'avec la force nucléaire, on a les moyens, les moyens de s'autodétruire, en fait, tout simplement. si on calcule, on a même les moyens, si on cumule les puissances nucléaires des différents pays, on a les moyens de détruire, je sais plus combien, mais c'est de l'ordre d'une quinzaine de fois la planète. Donc c'est même pas une seule fois. C'est de l'ordre de s'autodétruire un certain nombre de fois. Donc effectivement, cette augmentation des dépenses militaires a conduit à une augmentation, bien évidemment, du commerce des armes entre les pays, puisque bon, si la France a essayé d'avoir une certaine autonomie dans sa production d'armement, c'est-à-dire de produire à peu près toutes les armes que l'armée souhaite avoir, c'est pas le cas de tous les pays, et c'est de là que peut exister qu'existe le commerce des armes, en fait, hein, effectivement, parce que il y a une certaine forme de concentration de la production des armes entre quelques États, et puis, par contre, tous les autres États cherchant à acquérir, en achetant des armes sur le marché, et donc c'est mis en place, c'est comme ça que c'est mis en place un commerce des armes au niveau mondial relativement important, et dans lequel, donc, comme je disais tout à l'heure, la France occupe une place importante. Elle a commencé, la France, à s'impliquer, à vendre beaucoup d'armes au niveau mondial, essentiellement à partir des années 60, quand justement elle a essayé de développer à la fois son armement nucléaire et son autonomie au niveau de tout le matériel qu'elle voulait produire, pour essayer de rentabiliser ses investissements qu'elle mettait dans la production d'armes en vendant effectivement les armes sur l'extérieur. Donc, alors que les armes qu'on produit sont censées apporter de la sécurité, dans le même temps, on exporte de l'insécurité à l'extérieur. Et on rentre dans une espèce de spirale, en fait, dans lequel, où effectivement, il faut qu'on ait des armes toujours plus performantes, puisqu'on en vend aussi, et donc les autres pays s'arment. Et donc, on est dans une espèce, oui, de spirale, en fait, qui font que, bon, de course technologique à avoir toujours des armes plus perfectionnées que celles qu'on va vendre aux voisins, tout en cherchant à lui en vendre pour pouvoir payer les développements de nos armes. Donc il y a une espèce de logique qui est un petit peu folle et qui, effectivement, qui peut avoir des conséquences assez dramatiques à un moment ou à un autre. Donc sur le commerce des armes, alors c'est vrai que on le présente souvent sous l'aspect purement financier. C'est pas toujours sous cet aspect-là qui est le plus important, je dirais, par certains côtés, puisque les armes qui sont les plus meurtrières, en tout cas celles qui sont utilisées dans le quotidien, je dirais, des conflits, sont pas forcément les armes les plus chères sur le marché, puisque ce sont ce qu'on appelle les armes légères ou de petit calibre, qui vont de la Kalachnikov au FAMAS ou d'autres missiles ou à l'époque des mines antipersonnelles ou ce genre de choses, qui ne sont pas les armes qui, d'un point de vue économique, sont les plus celles qui coûtent le plus cher ou qui représentent le plus d'enjeux financiers. Et c'est vrai que le commerce mondial des armes, si on le ramène aux échanges commerciaux qu'il y a entre les nations, il est relativement peu important parce qu'il représente 0,4-0,5% du commerce mondial qui existe au niveau de l'ensemble des produits. Donc on pourrait se dire qu'effectivement, ce n'est pas très énorme et qu'on pourrait l'acheter. Même au niveau de la France, le commerce des armes représente moins d'1% du commerce extérieur de la France. Donc ce n'est pas en termes purement économiques que les choses se jouent quand on vend des armes. À ce niveau-là, quoi, si on se place sur un plan strictement économique. Parce qu'à la limite, si on se plaçait sur un plan strictement économique, effectivement, l'arme qui serait le plus intéressante à vendre, mais qui n'est pas sur le marché, c'est l'arme nucléaire, parce que c'est celle-là qui coûte le plus cher, et c'est celle-là qui a aussi tout un tas d'États qui sont prêts à y mettre beaucoup d'argent pour pouvoir se la procurer. Et donc c'est là qu'il y aurait le plus d'intérêt financier si on se plaçait uniquement sous cette dimension-là. Donc la France, au niveau du commerce des armes, donc je vous disais, elle a commencé donc surtout à partir des années 60. Maintenant, à l'époque des années 60, elle vendait 5-6% de la production des armes françaises et était vendue à l'extérieur. Actuellement, on vend à peu près 30 à 40% des armes qui sont produites en France sont produites pour être vendues à l'extérieur et pas pour l'armée française. En termes financiers, ça représente donc effectivement le commerce des armes chaque année à peu près 4 milliards d'euros pour la France. Au niveau mondial, le commerce des armes, c'est assez difficile de donner des chiffres précis parce qu'effectivement, au niveau international, il n'y a pas de définition commune de ce que c'est une arme. Ça peut paraître surprenant, mais au niveau des Nations Unies, il n'y a pas de définition commune. Et donc, effectivement, mais ça peut paraître surprenant comme ça, mais en fait, c'est pour chaque État veut maintenir l'opacité sur ce qu'il vend, le secret sur ce qu'il vend. Et donc, effectivement, il n'y a pas eu encore de définition commune au niveau des Nations Unies de qu'est-ce qu'on met dans le matériel militaire, qu'est-ce qu'on inclut, qu'est-ce qu'on n'inclut pas dans le matériel militaire, dans une transaction militaire. Et donc, du coup, il y a des organismes qui essayent de donner, d'évaluer le commerce des armes au niveau international, mais entre les différents organismes qui essayent de l'évaluer, il y a des différences énormes de chiffres, de données, qui vont pratiquement du simple au double, en fait, quand on regarde. Le gouvernement français, sur le commerce mondial, il l'évalue à peu près à 65 milliards de dollars. Et il y a un organisme suédois donc, qui s'appelle le CIPRI, qui essaye de faire ça aussi depuis pas mal d'années, qui est un organisme indépendant financé plus par le Parlement suédois. Eux, leur estimation est plutôt autour de 50... eux, ils donnent une fourchette, en fait, justement, parce que face à la difficulté d'évaluer, ils donnent une fourchette qui va entre 34 et 48 milliards de dollars pour le commerce des armes. Avec, là encore, quand on regarde au niveau des exportateurs, donc quelque chose d'assez concentré, puisque, bon, là encore, les États-Unis sont en première position, exportant à peu près 30% des armes vendues sur la planète, sont le fait des États-Unis. Les Russes sont à peu près au même niveau d'exportation. Donc, suivant les années, ils sont les premiers exportateurs ou les seconds exportateurs, mais exportent aussi à peu près 30% du marché mondial. Et après, ben derrière, on trouve effectivement, suivant les années, on trouve la France, en règle générale, qui est le troisième exportateur, à peu près avec entre 8 et 12% des armes vendues dans le monde sont le fait de la France, suivi par le Royaume-Uni, l'Allemagne aussi, qui est un pays assez important au niveau exportation d'armes, avec d'autres pays aussi émergents, mais qui sont sur des chiffres, je dirais, moins importants, mais qui se mettent sur des créneaux un peu particuliers. Israël est aussi un exportateur important d'armes. La Chine est un exportateur important d'armes. Il y a d'autres pays comme ça. Mais l'essentiel du marché des armes est concentré entre, effectivement, dans l'ordre plutôt États-Unis, Russie, France, Allemagne, Royaume-Uni, qui à eux seuls assurent entre 80 et 90% des exportations d'armes. Donc c'est vrai que quand on entend au niveau des discours que la France ou que ces pays-là cherchent effectivement à faire la paix ou à contenir les conflits qui se déroulent sur la planète, c'est vrai que ça pose question. Parce que, on ne peut pas à la fois vendre du matériel militaire, et puis dire à ceux qui l'achètent, vous l'utilisez pas, c'est pas fait pour vous en servir, on vous interdit de vous en servir. Là, il y a un problème de logique. Et c'est vrai que si vous voulez réduire effectivement les armes en circulation, si vous voulez, ils ont les moyens de contrôler. Parce que quand on contrôle à peu près 90% du commerce mondial, quand ces États-là, ils ont envie de s'entendre pour imposer le prix du coton ou le prix de certaines matières premières aux pays producteurs, ils y arrivent tout à fait. Donc s'ils voulaient s'entendre pour restreindre le flux des armes qui circulent dans le monde, ils le pourraient aussi. Mais effectivement, là, on tombe sur des problèmes de volonté politique et d'enjeux. Et c'est là qu'on voit bien à quoi servent les armes, qu'elles ne servent pas effectivement à nous défendre, mais elles remplissent bien d'autres fonctions que celle simplement de défendre les ressortissants du pays qui les produit. Donc, je vais peut-être pas vous abreuver un petit peu de chiffres, mais peut-être un peu quand même vous donner au niveau des... parce que s'il y a des exportateurs, je vous ai parlé des exportateurs, mais aussi, bien évidemment, ça veut dire qu'il y a des pays qui achètent aussi. Alors là, le marché était un peu plus large dans les pays qui achètent, même s'il reste quand même relativement concentré, puisqu'un un des pays qui achète le plus d'armes sur la planète et depuis pas mal d'années, actuellement, c'est la Chine, donc qui achète à peu près 10 à 12% des armes vendues sont achetées par la Chine. Puis après, on trouve effectivement plutôt des pays comme l'Inde et le Pakistan, donc des pays dont on sait qu'ils sont en conflit depuis le début, puisque le Pakistan, depuis sa création en 1948, est en conflit avec l'Inde. Et notre pays tout particulièrement, alimente ces pays-là en armes, et de manière, je dirais même, de manière cynique, puisqu'effectivement, on vend à la fois à l'Inde et à la fois au Pakistan, sous couvert, comme argument pour justifier ce commerce-là, c'est qu'effectivement, puisqu'on vend les armes à peu près équivalentes de même des deux côtés, donc ça équilibre les forces, donc comme ça, les deux pays auront ne vont pas se faire la guerre puisqu'ils ont les mêmes moyens militaires, ce qui est loin d'être le cas puisqu'il y a des conflits régulièrement entre l'Inde et le Pakistan, même si ça reste pour le moment limité, au niveau du Cachemire notamment, et qui peuvent se faire aussi se développer, se maintenir depuis 1948 grâce au matériel militaire qu'on leur fournit. Oui.
Je me pose, ça marche là ? Si vous avez des questions, il faudra demander le micro parce qu'on enregistre. Et on enregistre parce que c'est diffusé sur Internet ensuite. Toutes les conférences sont sur Internet. Je voulais juste poser une question comme ça pour te permettre de respirer. Est-ce qu'il y a une date de péremption comme sur les yaourts, sur les armes
Non, effectivement. Mais c'est une des caractéristiques des armes. C'est que c'est du matériel qui, maintenant, on vit effectivement dans l'instantanéité. C'est-à-dire effectivement des choses qui durent peu de temps, etc. Alors que le matériel militaire, le temps militaire, fonctionne beaucoup sur la durée. Mais sur des durées importantes. C'est-à-dire que ça se compte en dizaines d'années. Entre le moment, par exemple, rien que déjà entre le moment où un gouvernement décide de produire tel système d'armes et le moment où ce système d'armes est en service, il peut se produire déjà une dizaine ou une quinzaine d'années. Et après, la durée de vie du matériel militaire est effectivement aussi très longue. Dans certains conflits, entre autres en Afrique, puisque bon, c'est la zone où il y a le plus de conflits, on trouve des armes qui datent de la Seconde Guerre mondiale et qui sont toujours en circulation et qui fonctionnent toujours. Donc du coup, il y a aussi, ça a permis de qu'il se mette en place tout un marché d'occasion du matériel militaire. Donc marché d'occasion entre guillemets, effectivement, hein, parce que c'est pas la même chose que quand on achète une voiture d'occasion, bien évidemment. Hein, mais il y a tout un marché d'occasion qui favorise aussi les trafics. Parce qu'effectivement, c'est souvent à ces moments-là que se développent des trafics d'armes qui sont revendues d'un pays à un autre et qui circulent d'un conflit à un autre. Parce que bon, une des questions qui se pose effectivement au niveau du commerce des armes, c'est que chaque État qui vend des armes, c'est bien ce qu'il vend. Mais au niveau international, il n'existe aucun contrôle sur les armes dites classiques, sur l'ensemble du matériel militaire. Il existe et a été mis en place progressivement des conventions des traités par rapport à l'armement nucléaire ou par rapport à l'armement chimique ou biologique, mais par rapport au commerce des armes, c'est du ressort de la souveraineté nationale. Donc chaque État, en gros, peut faire ce qu'il veut, tant qu'effectivement, sauf dans les cas où les Nations Unies, à travers le Conseil de sécurité, décident d'un embargo. Mais souvent, les embargos sont décidés quand le conflit est déjà déclenché. Et donc, du coup, son influence face à son rôle par rapport à éviter le conflit, effectivement, est assez faible, les embargos. Donc, et sinon, c'est du ressort de chaque État de vendre du matériel militaire comme bon lui semble. Et le contrôle s'exerce même pas à l'intérieur de l'État de manière large. pour prendre la France, donc, que, bon, moi, je connais mieux les mécanismes, bien évidemment, le gouvernement sait ce qu'il vend comme matériel militaire de manière assez importante, mais ça n'est jamais débattu au niveau ni du Parlement, ni encore moins des citoyens. Jusque même en l'an 2000, il n'y avait aucune information qui était faite sur le commerce des armes en France. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les ans, le ministère de la Défense donnait aux députés, quand ils votaient le budget, ils avaient un petit document qui devait faire 4 pages, dans lequel on disait la France a exporté pour X, donc à l'époque c'était des millions de francs, d'armes, en donnant une grande, en gros, une répartition régionale, c'est-à-dire tant au Moyen-Orient, tant en Asie, et c'est point à la ligne. Depuis, heureusement, depuis, il y a eu effectivement des campagnes qui ont été menées par différentes ONG et s'est mis en place progressivement une transparence. Et depuis donc l'année 2002, le ministère de la Défense produit tous les ans un rapport annuel dans lequel il décrit, effectivement, il donne la liste des pays auxquels on a vendu, auxquels la France a vendu des armes. Donc là, il y a déjà un peu un début de transparence. Mais ce qui manque, après, la transparence ne fait pas tout, c'est qu'effectivement, le Parlement ait les moyens de dire son mot sur ces questions-là. Parce qu'il ne suffit pas que, de donner l'information, il faut après pouvoir intervenir. Il faut qu'effectivement, les parlementaires puissent intervenir dans les choix des pays auxquels on vend des armes ou pas, et quel type de matériel on accepte de vendre ou pas. Parce qu'effectivement, elles sont vendues au nom de la France, c'est l'État français qui les vend, c'est pas les industriels. Les industriels les produisent, les armes, mais les décisions de vente de matériel militaire sont prises par le gouvernement. Et on le voit bien en ce moment où Nicolas Sarkozy va se balader chaque fois. Il y a toujours, effectivement, des marchands d'armes qui sont avec lui. Et qu'est-ce qui est...
Sur ce point-là, oui, je crois que c'est quand même intéressant... Que ce serait intéressant que vous puissiez nous dire, parce que effectivement, qui prend la décision, c'est le gouvernement effectivement qui décide de tel ou tel type d'armement, mais derrière, les entreprises sont effectivement les fabricants d'armes. Donc on ne comprend pas bien comment se fait le processus de décision pour effectivement aussi bien au niveau de la fabrication des armes, aussi bien au niveau des orientations et que ensuite du commerce. Parce que, bon, ça me paraît un peu trop rapide de dire que c'est le gouvernement qui, effectivement, fait son choix quant aux pays qui sont destinataires des armes et quant à la nature des armes. Moi, je ne sens pas tout à fait ça comme ça. C'est peut-être parce que je viens de la région parisienne. Enfin, j'ai vécu pendant un certain temps et que j'habitais à Évry et qu'à côté, il y avait Corbeil avec Dassault. Hein. Donc, je n'ai pas le sentiment que c'est vraiment uniquement le gouvernement qui a dit à Monsieur Dassault père que ce qu'il fallait faire. J'ai l'impression que M. Dassault père a aussi suggéré un petit peu au gouvernement ce qu'il fallait faire. Donc c'est un peu plus complexe que ça. Je ne crois pas que ce soit uniquement le gouvernement. Hein.
Enfin, est-ce qu'il y a un pays au monde qui le fait de la façon dont vous voulez le faire, c'est-à-dire avec...
Avec discernement
et avec l'accord des citoyens, moi je n'en connais pas.
Oui, puis non, c'est sûr qu'effectivement c'était un peu rapide la manière dont je le présentais, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile de tout dire dans une soirée, mais effectivement au niveau du processus de décision de production d'armement. Bien sûr qu'il y a des jeux de lobby et donc des jeux de pression mutuelle, mais malgré tout, c'est malgré tout le gouvernement et le ministère de la Défense à travers les différents organismes qui sont au départ demandeurs de développement de matériel militaire. Et donc, et après, effectivement, donc, c'est essentiellement, même au niveau des militaires, qu'ils élaborent donc ce qu'ils avaient, bon, des besoins. Ils expriment leurs besoins auprès du gouvernement. Et puis après, il y a des négociations, effectivement, parce que bon, il y a des enjeux budgétaires. On peut pas. L'armée est demandeuse de matériel toujours plus sophistiqué, de matériel toujours plus important pour être à la pointe, effectivement, par rapport dans le jeu de concurrence internationale. Mais les réalités budgétaires, je dirais, françaises font qu'on peut pas. Qui peuvent pas produire tout le matériel que l'armée souhaiterait, bien évidemment. Mais donc, il y a des arbitrages qui se font. Alors, bien sûr que les industriels essayent aussi, eux, d'influer dans un jeu de concurrence, dans un jeu pour emporter des marchés. Parce que quand le gouvernement décide de produire des armes, c'est pas comme dans la production civile où c'est l'industriel qu'il faut qu'il fasse tout le travail de recherche-développement et donc qu'il investisse avant de produire une voiture ou avant de produire une machine à laver. L'industriel, il faut qu'il développe des programmes sur ses propres fonds de recherche pour améliorer ou pour créer le produit. Au niveau du matériel militaire, c'est le gouvernement qui distribue des projets, des budgets de recherche-développement sur des programmes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a... Donc, alors, suivant les époques, avant, il y avait une grosse production qui était faite dans le cadre des arsenaux, donc et d'une industrie qui était étatique. Donc là, la liaison a été beaucoup plus directe. Maintenant, il y a eu des regroupements, il y a eu une privatisation de la production de manière importante de l'industrie d'armement, pratiquement. Enfin bon, il y a encore quelques éléments qui sont encore pas encore complètement privatisés, mais c'est quasi, ça va être quasi tout privatisé au niveau de la production. Et donc du coup, le gouvernement et l'armée procèdent par appel d'offres, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des appels d'offres sur des programmes avec un cahier de charges qui sont soumis. Les industriels, effectivement, répondent à ces appels d'offres. Et puis après, reçoivent de l'argent pour faire le développement, reçoivent des commandes après, une fois que le produit est développé, en quantité de matériel. Il y a des négociations importantes entre ces industriels de l'armement et puis le gouvernement et le ministère de la Défense, essentiellement, parce que c'est le ministère de la Défense qui gère quand même l'essentiel à ce niveau-là, à travers un organisme qui s'appelle la Délégation Générale à l'Armement, pour ça. Donc ça se passe quand même comme ça, avec le seul contrôle qu'exerce le Parlement ou le seul débat qu'exerce le Parlement là-dessus, c'est au moment du budget, effectivement, tous les ans, où il y a le vote du budget de la Défense. Et donc, dans ce cadre-là, il pourrait plus ou moins influer sur tel ou tel type de développement, en théorie. Dans la pratique, comme on est sur des développements qui sont sur plusieurs années, voire 5-6 ans, voire le Rafale, quand on a développé le dernier avion de combat, ça s'est compté plutôt en dizaines d'années. Une fois qu'un programme est lancé, c'est vrai qu'on voit mal les députés, tels que fonctionne actuellement la représentation parlementaire, arrêter un programme qui est déjà en cours, donc parce que ça remettra en cause effectivement de l'emploi dans les régions, et que les députés qui s'intéressent un peu à ces questions justement militaires, en règle générale, c'est les députés qui ont une industrie d'armement dans leur secteur, puisqu'effectivement, et donc du coup, eux, leur volonté, c'est plutôt que, effectivement, que les programmes se poursuivent, parce que ça fait de l'emploi sur leur région, et donc ça leur permet d'être élus la fois d'après. Donc on est dans un espèce de jeu assez compliqué. Alors après, bien sûr, il y a la deuxième question, effectivement, qui se pose, que vous posiez, sur ailleurs, comment ça se passe. Bien évidemment, dans les autres pays, ça se passe pas forcément non plus mieux. Hein. Ça, je suis bien d'accord. Mais C'est une question, mais pour autant, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que dans les autres pays, ça se passe mal, enfin, ça se passe de la même manière que nous, il faut qu'on laisse nos gouvernants faire ce qu'ils veulent et qu'on laisse, en tant que citoyens, les gens produire du matériel de destruction et de continuer à se développer, continuer à vivre sans se soucier de nos voisins. Qui soit, je dirais, la porte à côté, ou qui soit sur un autre continent. Cette question-là, en tant que personne, on doit se la poser et on doit essayer de faire en sorte, effectivement, d'améliorer les choses sur ce domaine-là, comme sur d'autres domaines. Et l'armement n'est pas isolé du reste des rapports mondiaux dans lesquels on vit, bien évidemment. Il y a des pays où il y a des fonctionnements un peu plus démocratiques que d'autres sur ces questions-là. Pour le coup, aux États-Unis, le Parlement est plus impliqué dans les processus de décision et d'exportation d'armes qu'en France, même si ça ne résout rien, puisque c'est les pays qui exportent le plus. Hein. Je suis bien d'accord que ça ne résout pas tous les problèmes. Que le Parlement soit plus impliqué dans cette question-là.
Est-ce qu'il y a des recherches sur les armes chimiques en France ? Malgré, je dis ça, mais il me semble qu'il y a interdiction, les armes biologiques, quoi, les chimiques biologiques, et parce qu'il me semble qu'il y a interdiction de les commercialiser, mais est-ce qu'il y a des recherches ? Parce qu'il paraît qu'aux États-Unis, par exemple, ou en Russie, ça fonctionne fort.
En France, enfin dans ce qu'on peut savoir, parce que c'est des domaines quand même relativement opaques et sur lesquels on n'a pas, en tant que citoyen, parce que nous, même si on a une association qui essaye de travailler plus régulièrement sur ces questions, on travaille à partir de l'information qu'on peut trouver, effectivement, même s'il y a beaucoup d'informations accessibles par différents canaux et qu'en les recoupant, on arrive à voir des choses. On n'est pas dans le sérail qui produit ces choses-là. Il y a une veille qui est faite sur ce matériel-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de recherche de développement d'armes chimiques ou d'armes biologiques en France, mais il y a une cellule, je ne sais pas comment, enfin des bureaux qui surveillent effectivement ce qui peut se passer, qui se tiennent au courant, c'est plus en termes de veille technologique, de façon à pouvoir prévenir au cas où il y aurait utilisation d'armements chimiques dans une région ou dans une autre. Et puis pour prévenir, parce que donc il y a une convention qui existe au niveau de l'armement chimique, qui théoriquement fait que tous les pays doivent le détruire, l'armement chimique qu'ils ont. Donc la France a rempli ses obligations par rapport à ça, c'est-à-dire qu'elle a détruit les armes chimiques qu'elle avait, mais d'autres pays sont loin encore de l'avoir fait, et donc il y a un suivi de ce côté-là, mais plus sous forme de veille et de surveillance pour l'application du traité sur l'armement chimique et biologique. Enfin, qui est un peu le même cas de ce qui s'est passé avec les mines antipersonnelles, ou un peu le même cas de figure, où donc suite après l'appareil, entre autres, ça c'est un exemple par exemple où la mobilisation citoyenne a permis d'obtenir des choses au niveau importante, puisqu'effectivement ce traité qui existe donc depuis 10 ans, qui interdit la production des mines antipersonnelles, même s'il n'a pas tout résolu, parce qu'il en reste encore, parce qu'il y en avait énormément de produites, émanait d'une prise de conscience des gens et d'une action citoyenne qui a été menée, pas qu'en France, hein, bien évidemment, hein, qui a été menée dans le monde entier, qui ont permis d'aboutir à ce traité-là d'interdiction qui a été adopté en 1997 donc, par les Nations Unies. Alors maintenant, on est dans la phase de destruction de ces mines-là. Tous les pays l'ont pas signé, ce traité sur les mines antipersonnelles, hein, et notamment les États-Unis, la Russie ne l'ont pas signé. Mais c'est vrai que, par exemple, dans le dernier conflit en Irak, les États-Unis n'ont pas utilisé de mines antipersonnelles parce qu'il y a eu une telle pression, même s'ils n'ont pas signé le traité, il est devenu quasi universel. La question maintenant, c'est que les États mettent suffisamment de moyens pour déminer toutes les zones contaminées, pour détruire tous les stocks de mines antipersonnel qui existent. Donc tous les ans, il y a un comité de suivi qui a été mis en place, il y a des conférences de révision, il y a surtout, toujours au niveau international, un mouvement de citoyens, une campagne internationale, qui aussi fait pression sur chacun sur ses propres États, pour des pays comme la France qui ont détruit leur stock de mines, mais continuer à mettre de l'argent, à investir à la fois dans du matériel de déminage, et puis investir sur les zones où il y a des mines, de façon à ce que investir financièrement, enfin en moyens humains et en moyens financiers, pour qu'on puisse déminer sur ces zones. Donc les citoyens ont bien sûr, ça résout pas tout, on avancera pas par pas, on n'avance pas de manière complète, bien évidemment, sur ces questions-là, parce que c'est des questions complexes qui mettent en jeu des intérêts compliqués. Mais quand on arrive quand on se met d'accord au niveau international sur des thèmes précis, on arrive progressivement à avancer pas par pas pour qu'effectivement aller vers un monde moins inégalitaire, moins dangereux pour les individus en termes humains, enfin en termes tout simement humains, quoi. Vous vouliez je croyais que vous avez... du coup parce que j'ai fini ce que je disais, mais je croyais que vous vouliez intervenir. Non, faut pas hésiter, c'est vrai qu'il y a des
Oui, moi je crois que l'armement, n'importe comment, ça suit l'humanité depuis toujours et ça continuera à la suivre. Hein. Parce que le procès qu'on fait au nucléaire en ce moment, c'est un peu le procès qu'on faisait à l'arbalète au XIIe siècle, hein, avec condamnation de l'Église, parce que arme de destruction massive. Hein. Si on n'a pas eu de conflit majeur au moment de la guerre froide, c'est peut-être aussi parce qu'on avait le nucléaire, malgré tout. Hein. On ne peut pas tout condamner comme ça, d'un bloc, et puis faire de l'angélisme. Hein. En 14, Dieu merci, on a été aidé. Hein. On n'a pas été aidé gratuitement. En 14, c'est vrai que les Américains sont venus parce qu'il fallait éponger la guerre de sécession. C'est vrai qu'ils sont venus en 40 parce qu'il fallait éponger la crise de 29. Mais on était bien contents de les trouver quand même, hein, parce qu'on était sous-armés. Hein. Et quitte à jouer les moutons noirs, là, un conflit n'est pas peut nous arriver d'un jour à l'autre. C'est clair. Donc, on va encore demander aux Américains, on va encore demander je ne sais pas qui, on va s'attendre à quoi, hein. Il faut qu'on ait une réponse qui nous soit propre, malgré tout. Hein, même si elle est nucléaire. Au moins, ça fera peur.
Oui. Non, la question n'est pas de faire de l'angélisme, effectivement. C'est bien pour ça que nous, on essaye de travailler sur des choses un petit peu précises et pas simplement d'être contre la guerre ou parce que ça ne veut pas dire grand-chose, effectivement, si on l'aborde de manière trop globale. Mais c'est vrai que je pense que c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. On est effectivement dans un espèce de... Bien sûr qu'il faut se défendre par certains côtés. Mais après, déjà, se pose la question de quelle manière se défendre. Et surtout, la question qu'on pose, ou que j'essayais de poser tout à l'heure, c'est de ne pas continuer à alimenter effectivement les risques et de créer de l'insécurité. Parce que tel qu'on fonctionne actuellement justement, en exportant des armes, en vendant des centrales nucléaires, c'est en train de se faire actuellement de manière importante à des pays qui sont déjà dans des formes d'instabilité. On renforce l'insécurité, on renforce les risques de guerre, justement. Donc, et nous, ce qu'on a, à se placer en tant que collectivité, en tant que citoyen, à essayer de pousser nos gouvernements à mettre en place, déjà à limiter l'exportation d'insécurité, je dirais, déjà à limiter les risques, bien évidemment, à s'attaquer aux causes des conflits. Parce que La réponse militaire, elle est une réponse, effectivement, elle est une des réponses possibles. Mais quand il y a le conflit, c'est pas parce qu'il y a des armes. C'est pas les armes en elles-mêmes qui créent le conflit. Le conflit a d'autres causes et sur lesquelles il faut s'interroger, sur lesquelles il faut essayer.
Comment pourrait-on interdire à l'Iran, par exemple, d'avoir la bombe
Mais personne n'a interdit à la France de l'avoir. Non, mais ça, là, c'est une réponse un peu facile. Effectivement, je pense que... par exemple, pour prendre l'exemple effectivement précis de l'Iran, donc qui cherche à avoir l'armement nucléaire, ça c'est clair, qui est souverain et qui a fait. Il y a des causes sur lesquelles pourquoi ils veulent acquérir cette arme. D'une part, parce qu'ils sont déjà dans une région où ils sont pas les. Il y a un autre État qui a cette arme nucléaire, sur lequel aucune pression n'a été faite, au contraire, puisque effectivement un certain nombre de pays, dont la France, ont aidé Israël à obtenir cette arme-là et à l'avoir. Donc effectivement, ils appliquent les méthodes, ils veulent appliquer les méthodes que nous, on a appliquées effectivement dans nos pays, parce que nous, on fait tout. Des pays comme la France, comme les États-Unis, comme font reposer toute leur souveraineté, justement, leur exercice, sur la possession de cette arme-là, en interdisant aux autres de l'avoir. Ceux qui en interdit, pourquoi ils voudraient pas...
Pourquoi Israël, un pays théocratique, l'aurait-elle
et que l'Iran l'aurait pas. Exactement. Et la question, elle est là. Et la seule manière que nous... on peut avoir d'agir par rapport, par exemple, à un problème comme ça, c'est pas simplement de baisser les bras en disant bah, puisqu'il y en a un qui l'a, ce serait bien que l'Iran l'ait, parce que ça sera effectivement le problème. C'est d'arriver à faire en sorte qu'effectivement, déjà, l'armement nucléaire israélien soit soumis au débat, soit soumis effectivement aux inspections de l'AIEA, puisque l'AIEA veut aller inspecter de partout en Iran, mais ne va pas inspecter en Israël. Donc là, on a un rôle à jouer, nous, en tant que société civile, en tant que citoyen, pour essayer, parce qu'effectivement, notre poids, bien sûr, vous allez me dire, notre poids est relativement faible individuellement, collectivement un petit peu moins, malgré tout, si on arrive à se mettre d'accord. Et notre force, effectivement, c'est plutôt d'essayer de poser justement déjà l'ensemble du problème et de dire... Bon, il faut qu'Israël soumette et à terme qu'Israël, effectivement, renonce à l'armement nucléaire, comme l'Afrique du Sud l'a fait, pour pouvoir réintégrer la société, enfin, le concert international. Il y a l'Afrique du Sud qui, au temps de l'apartheid, possédait l'armement nucléaire, suite aux pressions qui ont été exercées, effectivement, aux bagarres qui ont été menées à différents niveaux contre l'apartheid, pour pouvoir réintégrer, je dirais, le concert des nations, donc participer effectivement à la fois au commerce, etc., aux relations internationales et tout, a renoncé et a détruit son armement nucléaire. C'est pas tout à fait, mais il y a des solutions qu'on peut trouver de ce type-là. Mais...
Oui, non, mais je ne vais pas prendre la parole, monsieur. Alors, il y a plusieurs points, parce que ça va éviter de faire la valse du micro, parce que c'est un peu pénible pour Jean. Alors, premier point, votre association, elle remplace un peu ce que devrait faire la presse, même si on sait que les associations sont toujours très importantes et ont un rôle important. Donc elle remplace le rôle des médias qui, en fait, font pas leur boulot par rapport aux armes et à l'armement. Et donc, vous n'avez pas de pouvoir, en fait. Vous avez un pouvoir d'observateur, d'une association qui fait un bilan, qui met en garde, mais vous n'avez aucun pouvoir sur le gouvernement, j'imagine. Enfin, c'est une question en même temps. Deuxièmement, je suis étonnée du chiffre que vous annoncez par rapport au commerce des armes, qui est donc qui est vraiment faible, 5% au niveau international, c'est ce que vous avez dit, je crois. Et alors, comment, c'est intéressant le paradoxe entre ce petit chiffre, ces 5%, et en même temps le pouvoir énorme des armes dans le monde. Troisièmement, je suis étonnée aussi que que dans vos études ou dans vos recherches, l'Inde, le Pakistan et la Chine, par rapport à leur développement et démographique, économique, technologique, etc., ne soient pas plus en avant ou par rapport à l'armement. Puis j'en avais la quatrième et je ne me rappelle plus, il reviendra.
Oui. Bon. Non, je suis pas. Non, je croyais qu'il y avait. Oui.
Il y a, s'il y a d'autres questions, comme ça, il note et.
Non, mais c'est, non. Oui, c'est comme vous voulez, c'est pareil. C'est oui. Donc, surtout là, il y en a déjà plusieurs qui brassent large. Donc effectivement, nous, notre rôle, c'est plutôt des rôles d'alerte, en fait, hein, et de veille et d'alerte. Donc, et après, nous, tout seuls, bien sûr qu'on peut rien. Nous, parmi d'autres, effectivement, on peut. Donc, c'est ce que j'ai dit au début, on agit rarement après tout seul. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on est plutôt là pour soulever les problèmes, pour apporter des argumentaires. Et après, on bâtit des collectifs avec d'autres organisations qui permettent de mener des campagnes. Donc actuellement, à la fois sur les questions de l'armement nucléaire, à la fois aussi sur les questions de transfert d'armes. Entre autres, actuellement, il y a une campagne qui est lancée, qui avait été lancée depuis 2003 au niveau international pour la mise en place d'un traité international sur le commerce des armes. Donc une campagne qui a été lancée par plusieurs réseaux, c'est-à-dire effectivement des réseaux qui travaillent plus sur les droits de l'homme, style Amnesty, et des réseaux qui travaillent plus d'associations au niveau international sur les questions de développement. Donc ça, c'est un peu les réseaux CCFD, le Comité catholique pour la fin du développement, le Secours catholique ou Oxfam au niveau international. Et puis aussi le troisième réseau qui travaille plus sur les questions d'armement pour le désarmement. Donc c'est ces trois réseaux-là qui ont lancé cette campagne en 2003, qui a débouché au niveau international que l'ONU, en décembre 2006, au niveau de l'Assemblée générale, vote une résolution pour que se mette en place progressivement ce traité international. C'est-à-dire que donc maintenant, d'un point de vue après, pour que s'élabore un traité, il y a bien sûr tout un tas de procédures. Et d'ailleurs, enfin, à ce niveau-là, il y a un groupe d'experts qui se réunit, qui a commencé à se réunir au niveau international, donc depuis je crois que c'est le 11 février qu'ils ont eu leur première réunion, pour élaborer au niveau international un traité sur le commerce des armes qui permettrait de, théoriquement, enfin bon, après, tout dépendra de l'issue des négociations, bien évidemment, hein, parce qu'on n'en est pas encore au bout de ce type de processus, d'éviter que des armes soient vendues à des pays violant les droits humains ou des pays qui ont des niveaux de développement faibles, que le matériel militaire qu'ils achètent vienne empêcher le développement du pays. Enfin, bon, un certain nombre de critères qui seraient mis en place, avec après, bien sûr, tout dépendra des procédures contraignantes qui seront mises en place pour pouvoir faire respecter ces critères. Tout n'est pas... Ça prendra quelques années avant que ça se mette en place, bien évidemment. Mais il y a des processus comme ça dans lequel notre association, ou le travail qu'on peut faire, et à côté d'autres, permet d'aller vers ce type de processus. Alors bien sûr, maintenant, c'est effectivement pas seulement au niveau français que les choses se jouent, mais au niveau à la fois européen et puis au niveau aussi international. Donc on essaye de travailler sur ces différents niveaux, le niveau français, le niveau... européen et au niveau international, ce qui n'est pas toujours facile, mais la société civile, oui, a ce pouvoir-là de pouvoir interpeller, de pouvoir alerter et de pouvoir faire améliorer, je dirais, les réglementations, le droit au niveau national, européen et international sur ces questions-là. Donc là, c'est comme ça qu'on essaye d'avancer. Bien évidemment, et c'est bien pour ça qu'on avance sur les différents niveaux, parce que ça évite de se retrouver confronté à la question si c'est pas nous, si nous on arrête et que les autres continuent, ça résout strictement aucun problème. Bien évidemment, si le problème est pas seulement de savoir que les armes qui servent à tuer soient made in France ou made in Chine ou made in USA, ça résout pas le problème. Le problème, c'est bien d'arriver à ce que les armes soient plus utilisées de manière aussi importante pour tuer des gens, donc d'où qu'elles viennent. Donc c'est pour ça qu'on essaye toujours de travailler sur les différents niveaux pour faire avancer progressivement le droit, tout simplement. Effectivement, en termes financiers, le commerce des armes peut paraître assez ridicule parce que les échanges sont de plus en plus importants au niveau international. Les échanges commerciaux à tout niveau, bon, ça c'est le résultat de la globalisation, entre autres, qui font qu'il y a des échanges. Donc les volumes d'échanges internationaux augmentent à une vitesse importante au niveau financier. Et donc, du coup, la part du matériel militaire dans ces échanges peut paraître faible, bien évidemment. Pour ça, je disais, le problème des armes, ça se pose pas seulement au niveau économique, ça se pose bien au niveau de l'usage qui en est fait et du rôle qu'elles peuvent acquérir. Les armes qui sont le plus utilisées dans le monde, elles coûtent presque rien. Et effectivement, c'est les Kalachnikovs, entre autres, qui ont été fabriqués à des millions d'exemplaires, pas seulement à l'Est, comme on l'imagine. Y compris aux États-Unis, une usine qui fabrique des Kalachnikovs qui permettait aux Américains d'en distribuer à certaines guérillas en donnant l'impression qu'elles ne venaient pas des États-Unis mais de la Russie, parce que dans le monde collectif, enfin, dans l'imaginaire de tout le monde, c'est une arme qui est identifiée effectivement au bloc de l'Est, à la Russie, alors qu'elles ne venaient pas toutes de Russie, par exemple. Mais elles coûtent pratiquement rien, effectivement. Parce que c'est des armes qui sont extrêmement robustes, qui nécessitent aucun entretien, mais qui a un groupe dans une région où l'État est particulièrement faible, peuvent servir à déstabiliser, à renverser une majorité et avoir un rôle important sans qu'elles aient une influence financière, je dirais, dans le commerce des armes importante. Donc c'est ce qui explique effectivement ce faible chiffre au niveau commerce, si on le ramène au pourcentage de tous les échanges. Si l'Inde et le Pakistan, j'en ai un petit peu parlé, la Chine, j'en ai un peu parlé aussi, comme zone où risquait actuellement, où se faisait une concentration à la fois des enjeux, effectivement, des tensions, à la fois internes à l'Asie, c'est-à-dire effectivement de savoir quel est le pays qui aura le leadership sur cette région-là, d'une part, et est-ce que la Chine va rentrer en concurrence effectivement avec les États-Unis pour obtenir le leadership au niveau mondial. Ça, c'est des choses qui se jouent actuellement, dans lesquelles l'accumulation d'armes dans la région peut aussi jouer un rôle dangereux, dans la mesure où il y a une accumulation de plus en plus importante et une élévation du niveau militaire de ces pays-là, qui est importante en ce moment, et notamment au niveau de la Chine, et qui lui permet actuellement aussi de prendre pied, notamment en Afrique, où la Chine prend de plus en plus pied, ne serait-ce que par rapport au contrôle du pétrole, parce qu'elle sait bien que le pétrole, elle en aura besoin pour se développer, elle aura besoin des matières premières, d'avoir accès aux matières premières, qu'elle les a pas toutes sur son territoire, même s'il est immense. Et donc, elle prend de plus en plus pied sur l'Afrique, notamment avec le commerce des armes, c'est-à-dire notamment en distribuant à certains régimes du matériel militaire, y compris gratuitement. Et du coup, ça rentre pas, bien sûr, dans les statistiques. C'est pas comptabilisé. Mais puis en plus, ça serait même en termes de financiers, ce serait pas forcément énorme en termes de coûts purement financiers. C'est énorme en termes d'influence, de pouvoir d'influence, mais pas en termes monétaires. Voilà pour répondre un petit peu à.
Est-ce que. Je voulais poser une question. C'est quoi la guerre des étoiles? On a entendu parler de ça, là. C'est en quoi les étoiles arrivent à comment on peut faire la guerre avec des étoiles, quoi?
Non. La guerre des étoiles, oui, c'est un vieux terme qui avait été utilisé, qui date de la guerre froide, en fait, qui avait été Ronald Reagan, donc c'est dans les années 84, par là. Non, en fait, ce qu'on appelle la guerre des étoiles, c'est le contrôle, en fait, de l'espace et donc de la circulation, à la fois au niveau des satellites, puisque, bon, toutes nos communications passent par des satellites, hein, bien évidemment, donc le contrôle qui sont dans l'espace. Donc celui qui maîtrise l'espace prend un pouvoir très important de contrôle sur le reste du monde, bien évidemment. Et il y avait aussi, surtout, puisque bon, l'armement nucléaire donc fonctionne avec des missiles qui sont envoyés donc pour l'essentiel de sous-marins. Et qui passe par l'atmosphère, bien évidemment. Et donc, dans la guerre des étoiles, l'idée qu'il y avait au niveau des États-Unis, qui existe toujours maintenant, qui s'appelle le bouclier antimissile, qui est revenu un peu sous cette forme-là, c'est d'essayer, de, au niveau des, entre autres des États-Unis, de créer une espèce de bulle au-dessus de la surface des États-Unis, pour contrôler, pour empêcher que tout missile puisse pénétrer sur le territoire et donc de pouvoir le détruire quand il est encore dans l'atmosphère, de façon à ce qu'il ne tombe pas sur leur pays. Et donc c'est ce bouclier qu'ils sont en train de... Bon, c'est un vieux projet hein, qui a démarré effectivement sous Reagan et qu'ils essayent de mettre en place progressivement, qu'on appelle le bouclier antimissile, on en entend de temps en temps parler, d'essayer de contrôler la circulation des missiles, à la fois la circulation des satellites, parce que c'est ça qui permet de savoir quand, si un pays déclenche un missile pour venir sur notre pays. C'est par les satellites qui pourront détecter que ce missile va partir, la trajectoire qu'il va prendre, et puis de pouvoir tirer un autre missile suffisant. Mais ça se compte après, c'est des choses qui vont se compter en secondes de réaction. Hein. Ça demande des calculs de pouvoir effectivement le détruire quand il est en vol avant qu'il tombe sur les États-Unis. C'est ça la guerre des étoiles.
Est-ce qu'il y a des questions, des choses non ouais.
Moi, je voudrais savoir si dans la vie de tous les jours, s'il y a des gestes qu'on fait qui cautionnent justement la vente d'armes ou je sais pas quoi, enfin l'armée en général, comme je sais pas, placer son argent à la banque, est-ce que ça peut, par exemple, cautionner ce genre de choses ?
Bah, c'est toujours difficile. Indirectement, bien évidemment, dans le, j'irais. Indirectement, dans le niveau de vie qu'a la France, c'est grâce en partie à sa puissance militaire. Donc on peut dire que dans ce cas-là, que dans tout ce qu'on fait tous les jours, il y a des choses. Parce que notre niveau de vie, il n'est pas généralisable à l'ensemble de la population vivant sur la planète. Parce qu'il n'y aurait pas assez de matières premières, par exemple, pour que tout le monde ait le même niveau de développement ou le même niveau de consommation que nous, on a. Mais deux gestes directs qu'on fait, qui cautionnent, bien sûr que certaines banques participent aussi à des programmes, enfin, servent aussi de banques par rapport aux industries d'armement, etc. Mais c'est difficile de voir des gestes, je dirais, concrets sur lesquels on pourrait, qu'on pourrait refuser, qui permettraient justement de peser sur la production d'armement. À la limite, si la France cherchait, par exemple, tout le système de GPS qui se développe de plus en plus, que tout le monde utilise, le point de départ, c'était des raisons militaires. Internet qu'on développe, qu'on utilise tous de plus en plus, au moins collectivement de plus en plus, au départ, a été fait par les militaires pour pouvoir communiquer entre eux sans prendre de risque, de pouvoir toujours communiquer entre eux, même encore de conflit. Donc, une espèce de maillage du territoire qui permettait aux informations de circuler de manière plus horizontale. C'est parti de là, Internet. Donc, bon, on ne va pas dire on arrête tous Internet, parce que ça ne permettrait pas de réduire pour autant l'armement. Je ne crois pas que c'est dans des gestes individuels. C'est plus, effectivement, dans du travail collectif à travers des associations. Qu'on arrive à faire avancer pas à pas une amélioration du droit, et une limitation de l'usage des armes, un meilleur contrôle effectivement sur nos gouvernements. C'est d'interpeller nos députés, c'est d'interpeller qui ont aussi normalement des pouvoirs d'agir sur ces questions-là. Donc de leur demander effectivement qu'est-ce qu'ils font pour ça. C'est plus à travers ce type de travail, je dirais, d'interpellation, d'écrire aussi éventuellement, vous parliez de la presse, effectivement, c'est vrai que on peut aussi solliciter les journaux pour leur poser des questions. C'est plus déjà d'en parler, de faire un travail d'information, qui est une prise de conscience, qu'on se rende compte qu'effectivement, du rôle que ça joue, et qui permet d'avancer, quoi. Je vois pas comme ça de... J'irais de gestes directement liés quoi, dans notre quotidien, par exemple, qui soient directement liés à l'armement. Quoi.
Faire une grève des impôts, puisque les impôts servent au budget de la défense.
Oui, il y a eu d'ailleurs des tentatives de mouvement de refus d'impôts, justement, mais... Pour que ça puisse peser, là pour le coup, on rejoint aussi le collectif. C'est-à-dire que si individuellement, on refuse de payer la part, par exemple, du budget militaire, qui est en gros de 20% du budget de l'État au niveau de ses impôts, et donc si individuellement, on déduit 20% de ses impôts en envoyant une belle lettre au trésorier... le résultat, c'est qu'on les paye deux fois parce qu'effectivement, il les prélève, à un moment donné, ils prélèvent à la source. Donc, si c'est fait individuellement, si c'est fait collectivement, la démarche pourrait prendre un autre sens. C'était au moment de la lutte contre le camp militaire du Larzac, donc dans les années 75-80, où il y avait eu un mouvement comme ça qui avait été fait. Plus collectivement, mais les gens réduisaient juste 3% de leurs impôts, une somme symbolique, puisque le fisc le reprenait après, donc pour permettre justement que plus de gens puissent le faire, parce que sinon c'est difficile. Mais c'est vrai que la part des impôts directs est assez faible dans le budget d'État, parce que la part essentielle des impôts est indirecte, c'est la TVA, sur laquelle c'est encore plus difficile d'intervenir, puisque bon, elle est prélevée à chaque acte de consommation qu'on a. Et c'est ça qui rend flou le plus les caisses de l'État, que le budget provenant directement des impôts.
Oui, sur le plan... Pardon. Sur le plan sécuritaire, en fait, n'importe comment, ça arrivera. Ça réarrivera, hein, forcément, un jour ou l'autre. Hein. Il n'y a pas de lézard. Ça a toujours été comme ça, depuis le néolithique et même avant. Hein. Sur le plan sécuritaire, ça nous avancerait à quoi de désarmer? C'est ce qui nous permet de ne pas avoir de conflit, c'est ce qui est d'être armé. Bon. On l'a vu, n'importe comment. Pourquoi il n'y a pas eu de guerre mondiale au moment du problème de Cuba? Parce que on était armé. Hein. Donc, en fin de compte, le fait d'être armé, c'est quand même un truc qui fonctionne. Malgré tout. Il faut bien admettre ça.
Il faudrait que ce soit le monde entier qui se désarme. Mais ça ne sera jamais possible. C'est le monde entier qu'il faudrait. Il ne faut pas l'espérer, on n'y arrivera jamais.
Non, mais bien sûr qu'effectivement...
Pardon, il y a Raymond, il y a ton revolver qui dépasse, là. T'as raison d'être armé, parce que c'est... ça peut...
ça dépend dans quel temps on s'inscrit aussi à ce niveau-là. Bien sûr qu'effectivement, dans l'idéal, il faut que tout le monde désarme, on est bien d'accord, mais ça on sait que ça viendra pas, que ça viendra pas comme ça. Mais si on se place dans un temps plus, enfin sur une échelle de temps plus grande, ne serait-ce que, alors bien sûr, il y a des limites, ça résout pas tout, etc. Mais si on prend la France tout simplement, avant comment elle fonctionnait, il y a quelques centaines d'années en arrière, il y avait des petits seigneurs, des châteaux, on se tirait dans les pattes au niveau des villages, etc. On a réussi à évoluer quand même. Socialement et collectivement ensemble pour éviter de se tirer dans les pattes les petits noyaux. On a élargi ça, effectivement, de la France à l'Europe, actuellement. Donc, on est arrivé, alors que l'Europe, en Europe, des conflits, il y en a eu quand même un certain nombre, dans lequel il y a eu de nombreux morts. On est arrivé, effectivement, à évoluer à ce niveau-là. Donc, on peut espérer que progressivement, effectivement, on élargisse. Qu'on est parti du village, qu'on est arrivé déjà à une zone quand même relativement grande de l'Europe. Mais bien sûr qu'on ne pourra pas désarmer, seulement désarmer, si on ne remet pas en parallèle, en cause, le mode de fonctionnement dans lequel on est. On peut pas... mais ça, mais j'ai pas parlé seulement, justement, que des armes. J'ai parlé du rôle qu'elles servaient et qu'effectivement... on ne peut pas simplement dire on arrête les armes et on continue à fonctionner comme le monde fonctionne. Parce que ça, bien sûr que ce n'est pas possible. Bien évidemment que ça sera plus que le chaos, ça sera effectivement une nouvelle guerre de tous contre tous. Que parallèlement à cette mise en place de droit, d'amélioration en tout cas du droit au niveau national, international, il ne doit pas se faire uniquement... que sous l'aspect de l'utilisation des armes. Il doit se faire dans le sens d'une réduction des inégalités, parce que c'est ça la cause quand même majeure des conflits. C'est les inégalités qui existent, qui font qu'effectivement, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, les armes sont surtout utilisées au niveau collectif, on veut empêcher l'autre de prendre certaines ressources, on veut les avoir nous moins chers que les autres, etc. Et donc c'est qu'en réduisant en parallèle ces inégalités, qu'on avancera en même temps vers un monde moins, moins militarisé. Mais c'est du travail à long terme qui se fait collectivement aux différents niveaux, mais pas simplement au niveau juste militaire, bien évidemment. Même si nous, on travaille plus sur cette dimension-là, on a bien conscience qu'il faut aussi travailler sur la réduction des inégalités au niveau économique, au niveau social, au niveau homme-femme, au niveau à tous les niveaux. Mais comme on ne peut pas tout faire en même temps, mais on sait bien que tout est lié, bien évidemment.
C'est comme une pelote de fil, hein. Faut trouver le début.
Faut prendre un fil et puis en tirer, même si on sait que c'est pas le seul fil qu'il faudrait tirer, mais il y en a d'autres qui tirent d'autres fils. Et on fait des liens avec ces gens-là. C'est comme ça que l'humanité avance quand même, malgré tout. Même si des fois, elle recule aussi, je suis d'accord.
Moi, ce que je voudrais dire, c'est que tout à l'heure, vous prenez l'exemple de Cuba, et effectivement, on était dans un contexte qui était différent. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un équilibre de la terreur. On était dans un monde bipolaire avec le mur de Berlin. Aujourd'hui, il n'y a plus cet équilibre de la terreur. On a une prolifération de l'armement, et notamment de l'armement nucléaire. Donc, vers quel monde on va ? Enfin, je veux dire, de prendre l'argument de dire, effectivement, il faut bien une armée pour défendre son propre territoire, ok, mais vers quel monde on a avec la réalité d'aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'on est dans une réalité d'un monde multipolaire, de plus en plus armé. On parle des États, mais il y a aussi des entités non étatiques qui peuvent avoir l'armement nucléaire. Donc on est vraiment dans une espèce de poudrière d'une escalade vers la prolifération nucléaire en fait, et de l'armement qui est extrêmement dangereuse. Quel choix de société on fait ?
Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, mais en fait, je comparais le phénomène de l'arme nucléaire à l'arquebuse au IIe siècle, que l'Église avait condamné comme une arme de destruction massive. Hein. Et de quel droit interdit-on, par exemple, à l'Iran, qui est un pays souverain, d'avoir... Mais je pense que l'équilibre de l'arme nucléaire, comme au temps de la guerre froide, d'ailleurs, va se neutraliser de lui-même. Tout le monde aura les jetons. Donc si tout le monde a les jetons, tout le monde ferme sa gueule, quoi. En fait.
Inch'Allah.
Inch'Allah.
Moi, j'ai confiance en la nature humaine. Mais bon. On verra.
Oui, mais c'est vrai qu'en même temps, enfin bon, je crois qu'effectivement, faut rester. Bien sûr, le monde, il avance, à la fois il avance et il recule en même temps. C'est-à-dire qu'effectivement, sur certains domaines, les inégalités sont plutôt en train de se creuser. D'ailleurs, à tout niveau, quoi, je dirais, au niveau, y compris à l'intérieur des sociétés, de chacune des sociétés et entre les sociétés actuellement. alors qu'il y a eu des périodes où, au contraire, il y avait plutôt un mouvement de réduction. Là, on est plutôt dans un mouvement, je dirais, d'augmentation de ces inégalités. Mais si on prend, enfin, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les moyens, justement, d'essayer de chacun à son niveau, d'essayer effectivement de réduire ces inégalités, chacun sous son angle, parce qu'on est tous investis, on peut être investi dans différents domaines en fonction de nos activités, en fonction de de préoccupations qu'on peut avoir. Mais les citoyens, chacun d'entre nous, quand on arrive à se mettre ensemble pour faire quelque chose, on fait progresser, on arrive à faire changer les choses. Bien sûr, même si c'est des mouvements lents, même s'il y a des retours, de bâton, mais il y a des choses qui ont avancé par rapport au mode de fonctionnement d'il y a quelques années en arrière, dans des cycles un peu plus longs. La guerre, elle a toujours existé. Elle a toujours existé. Mais elle a pris des formes bien plus importantes. Elle peut prendre des formes. Là, il y a une forme de guerre économique aussi. Mais en même temps, il y a des choses qui ont été réduites parce que il y a des choses qui sont plus limitées. Effectivement, ça concerne que des continents plus limités actuellement. Mais bon, c'est pas si mal que l'Europe n'ait pas connu de guerre depuis 50 ans. C'est pas si mal que ça, et on peut espérer, et c'est grâce aussi parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour qu'il n'y ait pas de guerre aussi.
Le 20e siècle a quand même été le siècle de la guerre. Ça a tout de même été le siècle de Hitler, de Staline, hein. Même Ivre le Terrible n'avait pas fait mieux, hein. On en sort du 20e, espérons qu'on ne va pas rentrer dans encore mieux au 21e, mais...
Tout dépendra de nous. Hein. Tout dépendra, effectivement, de la manière dont chacun se sentira concerné par ces questions-là, au sens large, hein, bien évidemment, et s'investira pour éviter le retour à la barbarie, quelle que soit la forme qu'elle prend.
Je sais pas j'ai toujours peur que ça puisse qu'on puisse dépasser une certaine limite de, on n'a pas assez chanté la chanson, peut-être faudrait la rechanter, mais c'est donc voilà, peut-être qu'on va clore sur toutes ces questions. On n'a rien résolu, mais là, on résout jamais rien, quoi, hein. C'était d'ailleurs Patrice, j'ai oublié de le présenter comme le menteur de service.